Et donc, Jean chapitre 12, on est dimanche des Rameaux, dans 5 jours le vendredi de Pâques, dans une semaine dimanche la résurrection, Pâques. Et dans Jean chapitre 12, actuellement, on parle de cela, l'entrée triomphale de Jésus sur un anneau, en tant qu'officiellement de rentrer comme roi, mais il est rejeté. Il est rejeté. Et il sera crucifié seulement 5 jours plus tard. Mais Jean chapitre 12 commence la veille, le samedi soir. Ce matin, nous parlons donc de la malhonnêteté de fond et la méchanceté. Et la lumière de la vérité qui fait vivre, ça c'est Jésus. On reprit. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. On te prie que tu puisses ouvrir les yeux du cœur de bien comprendre ta parole et que les cœurs puissent bien recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Et si c'est déjà fait, Seigneur Dieu, de grandir dans cette vérité. Et Seigneur, que chacun puisse vraiment vouloir vérifier que tout ce que moi je peux dire ou que toute autre personne peut dire puisse être vraiment bien conforme à ta parole. C'est la Bible, la vérité, c'est la Bible, ta parole, Seigneur Dieu. Merci de nous l'avoir donnée. Et donc, aide-nous de bien la comprendre, et aide-moi de bien l'exposer ce matin, on te prie au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 12, donc, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité les morts. Ça, c'est le chapitre précédent, chapitre 11. Donc, ça faisait pas longtemps que Lazare avait été ressuscité. Il avait été mort 4 jours, il sentait déjà être tué. Et on connaît, c'est ce que c'est, hein, quand on va quelque part, on se promène sur un sentier ou quelque chose, puis on sent une odeur de mort, puis là on voit un chien, un cadavre de chien mort depuis plusieurs jours. La mort, ça a une senteur, parce que ça, c'est tous les vers, commence à ronger, et là ça sent. Et Lazare sentait déjà Jésus l'a ressuscité des morts. Et là, donc, il vient les voir, 6 jours avant la Pâque. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Il était non seulement voleur, il était menteur. C'est pour ça qu'il dit, oh, on aurait dû le donner aux pauvres. Il sait très bien qu'il ce n'était pas pour le donner aux pauvres. Il était hypocrite, menteur et voleur. Mais Jésus dit, laissez l'affaire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de le faire mourir aussi, de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Maintenant, quand il dit « ils délibérèrent de faire mourir aussi Lazare », là on lit juste chapitre 12, mais plutôt dans Jean, qui d'autre voulait-il tuer? Et Jean le mentionne avant ici, chapitre 12. Les pharisiens voulaient tuer aussi Lazare. Donc il y avait quelqu'un d'autre qui était mentionné avant, que les pharisiens voulaient enlever. Ils voulaient détruire, ils voulaient tuer Jésus. Les pharisiens avaient délibéré, ils se sont dit, non mais il faut C'est la vie, hein. Il nous donne des tracas, lui. Il devient populaire. Puis en plus, il expose nos péchés. Il expose. Il nous traite de mauvaises personnes. Oh là, comment est-ce qu'il pourrait penser ça? Faut qu'on le tue. Il nous traite de personnes méchantes. Il faut qu'on le tue. Ils prouvent leur méchanceté en voulant tuer. La méchanceté. Mais on voit aussi la malhonnêteté des pharisiens. D'où, justement, leur méchanceté. Donc, Marie, elle loin d'huile, elle loin de parfum, les pieds de Jésus. Pour sa sépulture. Pour sa sépulture. Qu'elle ait compris ou pas, c'est pas la question. Dieu savait que Jésus s'en allait à la croix dans 5 jours, ou 6 jours. Jésus savait qu'il s'en allait à la croix. Il avait dit à ses disciples qu'il allait être crucifié, il allait être rejeté, il allait être crucifié, il allait ressusciter. Les disciples, ils entendaient ces paroles, mais plusieurs fois dans les évangiles, hein, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, et même peut-être dans Jean, je me rappelle plus spécifiquement, mais c'était dit que les... Ils entendaient les paroles, mais ils ne comprenaient pas l'idée. Pour eux, c'était invraisemblable. Leur roi, victorieux, glorieux, le Fils de Dieu lui-même. Ils n'avaient pas compris comment est-ce qu'il allait se faire la rédemption. Ils y croyaient que Jésus était le sauveur, qu'il venait les sauver de leurs péchés. Ils y croyaient. Pierre a dit clairement, dans Jean 6, qui rions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Mais comment? Ce n'était pas encore clair pour eux. Et donc ce parfum, même si elle ne comprenait pas exactement c'était pourquoi, et le texte ne le dit pas, peut-être qu'elle personnellement l'avait compris. Dans tous les cas, en loignant de parfum les pieds de Jésus, son sauveur, son maître, son bien-aimé, sauveur et Seigneur, eh bien, lui il sait qu'en fin de compte, ça sera pour sa sépulture. Le lendemain donc, verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, quelle fête? La fête de Pâques. Ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » De Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplis à son égard. Jésus, il accomplit toutes les prophéties à son sujet de l'Ancien Testament. L'entrée triomphale de Jésus sur un ânon. Est-ce que c'est la manière que vous vous attendez à ce qu'un roi rentre dans une ville? Ça a l'air plutôt simple, plutôt humble, justement. Justement, la vue de Jésus allait se faire humblement. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi, il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne. L'Ancien Testament, pourtant, décrit parfois aussi la vue de Jésus comme étant effroyable, glorieux, sous une grande colère vis-à-vis le péché, et pour libérer son peuple. Zacharie 9:9, il vient à toi sur un âne, planté sur un âne, humblement. Mais comprenez-vous pourquoi les Juifs même se demandaient, est-ce qu'il y aura deux messies, un qui vient glorieusement, l'autre qui vient humblement? Se demandent. Non, la solution c'est devenue. La première, humblement, sur un âne, mais il est rejeté. Il est même crucifié. Ésaïe 53 le dit clairement, il allait être crucifié. Mais Ésaïe 53 le dit aussi, et même il est cité ici dans le passage, on va y arriver tout à l'heure. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru que le Messie serait crucifié? Personne de sa génération l'a vu venir, ça. Même pas ses disciples qui croyaient en lui. Alors encore moins ceux qui ne croyaient pas en lui. Vous voyez venir la crucifixion. Mais Dieu sait très bien qu'est-ce qu'il fait. La première venue, humble, il offre le salut. Dieu va se servir même du rejet du peuple pour accomplir même le salut. Vous savez, quand ça dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés à son dessein, parce que Dieu peut même se servir de la méchanceté de l'homme pour accomplir le bien. Et Dieu a utilisé la méchanceté de l'homme en rejetant Jésus et en le crucifiant pour accomplir même le salut qu'il offre à lui-même. À chaque individu. Il faut l'accepter individuellement. Incroyable. Dieu est un grand Dieu qui se sert même. Il n'est pas responsable du péché de l'homme. Mais il peut s'en servir souverainement et le transformer en ce que l'homme ne veut pas. L'homme veut faire du mal. Satan veut faire du mal. Et Dieu le transforme en bien. Seul un Dieu souverain et bon peut faire une telle chose. Alors, verset 17, tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare au du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Et la foule vint au devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, vous voyez que vous ne gagnez rien, voici le monde est allé après lui. La foule entière crie Hosanna, fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y avait dans cette foule plusieurs disciples. Criés honnêtement et sincèrement. D'autres se sont laissés emporter par les émotions et ont commencé à crier aussi, mais pas vraiment du cœur. Un petit peu simplement à se laisser entraîner dans la chose, mais ça venait pas nécessairement d'eux-mêmes. Mais les pharisiens sont frustrés. Tous vont lui. Qu'est-ce que c'est que ça? On y perd tout là, vous n'y gagnez rien. Voici le monde est allé après lui. Mais eux, ils ne font qu'observer les choses qu'ils peuvent voir de l'œil. Ils ne voient pas ce qui se passe dans le cœur. Regardez verset 34. Ça, c'est dans la même journée plus tard. Un peu plus tard dans la même journée. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. » Qui est ce Fils de l'homme? La foule. On n'est pas surpris que la foule se laisse emporter de « Waouh, merveilleux !»« Hosanna !» Quand Jésus leur dit qu'il s'en va à la mort, Fils de l'homme, il n'est pas censé vivre éternellement. Vous avez compris, le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu, c'est le Messie, c'est le titre. Et ironiquement, la foule va crier quoi, 5 jours après ? Crucifie-le. Bon, une foi superficielle. Donc la frustration des pharisiens en voyant la
popularité
de Jésus. Mais cette popularité est est super. Non, pas tout à fait. C'est quoi? Cette popularité est
superficielle.
Ah, il manque une partie de mot. Il manque officiel. Superficiel, super. Oui, il manque les couleurs. Superficiel, c'est comme ça. Il me semble que c'est bizarre. Bah, il manque un L d'abord. Cette popularité est superficielle. Comme nous le montre verset 34. La foule, c'était pas d'une profonde conviction qu'il criait Hosanna pour la plupart d'entre eux. Alors, un peu plus tard, cette même journée, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » La fête de Pâques amenait beaucoup de Juifs qui étaient éparpillés à travers le monde. Et là, les Grecs, on parle de Grecs juifs dans le contexte, qui étaient venus pour la fête de Pâques. Ah, vous voudriez voir Jésus? Jésus leur répondit. Alors Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a à dire à ces gens qui viennent pour le voir? Verset 23. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le moment de sa gloire. Est-ce qu'il parle de son intronisation? Il va être mis sur le trône? Non. Parce que le contexte, ce n'est pas l'intronisation ici. Sa crucifixion. Son heure de gloire? Oui. Il s'est donné pour moi, il s'est donné pour vous, il s'est donné pour tout le monde, pour sauver. Même si la plupart le rejettent, il a donné sa vie pour sauver. C'est un acte glorieux. On va le lire. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et théoriquement parlant, ou par principe, Jésus, en tant qu'humain, une fois qu'il est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, une fois qu'il était fait homme, et il était sans péché, il mériterait de rentrer au ciel. Et il y aurait un humain dans le ciel, et c'est tout parce que tous les autres humains avaient péché. Je dis théoriquement parce que sa mission était de donner sa vie. Donc. Mais au sens, pour établir le principe, justement, Jésus nous l'enseigne ici. Par cette illusion à Un grain de semence, si on aime l'allure de cette graine de semence, puis qu'on ne la met jamais en terre, c'est vrai, on va garder cette graine de semence. On l'aura toujours, mais c'est la seule qu'on aura. Et si on s'en débarrasse, si on est prêt à s'en défaire pour la perdre dans le sol, elle est partie, hein, du coup là. Parce que là, elle s'ouvre, puis là, racine vers le bas et tige vers le haut, et une plante s'en sort. Mais ensuite, c'est un beaucoup de semences qui en résultent. Alors, c'est pour ça qu'il fait allusion à l'agriculture. Il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Donc, il l'applique d'abord à lui-même. Il dit, c'est l'heure pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Il est fait à sa mort. Mais ensuite, il applique le même principe à nous, à chacun de nous. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Tu veux garder ta vie, c'est quand tu veux garder cette semence de ta vie, bah, il ne va rien en sortir. Mais tu vas la perdre de toute façon. Et une semence corruptible ici dans ce monde, elle ne durera jamais. Elle va finir par mourir, cette semence-là. Elle ne sera plus bonne à un moment donné. C'est pour ça qu'on achète des grains, hein, les agriculteurs, quand ils achètent des grains, il faut qu'ils soient, s'assurent que les grains ne sont pas très vieilles, sont de la bonne qualité. Autrement, ils plantent et ils sèment, puis là, la semence était déjà pas bonne, elle était déjà morte. Et celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et si on est prêt de perdre notre vie, on la perd notre vie ici-bas. Quand on se convertit à Jésus, on ne sera plus jamais le même. On aura notre vieille nature, mais là ensuite on aura le Saint-Esprit, puis il va lutter, puis là il ne va plus jamais nous laisser pareil, il va nous châtier au besoin, puis on ne sera plus jamais capable de simplement s'adonner à nos péchés. Alors, si vous voulez vraiment vous convertir, c'est une décision que vous devez prendre en connaissance de cause. Si je me convertis, je ne serai plus jamais pareil, je n'aurai jamais plus mon ancienne vie comme avant. Il y en a qui se convertissent en essayant la chose sans jamais vraiment faire cette décision. Alors il y en a beaucoup de professions que les gens reviennent à ce qu'ils étaient parce qu'en fin de compte, ils n'avaient jamais vraiment abandonné. Mais Dieu voit le fond de notre cœur ici, dans toute simplicité. On dit, Dieu, je le veux, tu me sauves, je suis perdu. Je sais ce que ça veut dire, mais je ne veux pas continuer dans cette vie-là. Je ne veux pas continuer à pécher contre toi. J'ai la tristesse d'avoir péché contre un Dieu si bon, mais tu m'en sauves. Et on lui fait confiance, que c'est lui seul qui peut faire ça. C'est lui seul qui peut nous faire passer de la mort à la vie. Et complètement nous mettre en terre pour devenir une plante qui va produire du fruit, pour ainsi dire. Et donc Jésus l'applique aussi le principe à nous. Si nous on est prêts de perdre notre vie, on va la regagner avec Jésus, et on aura du fruit éternel aussi. Celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, ensuite il l'applique aussi en principe. Ceux d'entre nous qui avons accepté Jésus, maintenant l'occasion de volontairement mettre à mort notre vie, nos désirs, nos ambitions, nos préférences, on les met à mort volontairement, par degré de plus en plus, à mesure qu'on comprend les choses, on les met de côté pour pouvoir servir humblement, par sacrifice. Et le degré de notre service aussi va être le degré de fruit. Et l'honneur aussi du Père. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais il revient lui-même. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Bien sûr que non, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et Jésus, il revient à lui-même, c'est lui maintenant, c'est lui, il est face à la mort. Ici, vous ne savez pas, mais Jésus était de la même chair que nous. Il avait les mêmes nerfs que nous, il sentait la douleur autant que nous. Il avait des préférences autant que nous. Il avait des choses qu'il aimait, des choses qu'il n'aimait pas, et bien sûr, qu'il préfère manger des choses pas bonnes, des choses boire, des choses... Non, mais il était humain. Et il savait que la croix, ce serait rien de plaisant, ce serait la douleur, ce serait la moquerie, ce serait la honte, ce serait la souffrance, l'agonie, la soif intense. Mais plus que ça, il savait aussi qu'il y avait le poids de nos péchés à chacun de nous. Et si on prend le temps d'y penser, tous nos péchés. Oh là, avez-vous pensé à tous les péchés que vous avez faits de votre vie? Toutes les choses que vous pouvez vous rappeler? Toutes les choses que vous avez réalisées, et je sais que vous savez au fond de votre cœur, que vous n'avez même pas réalisé tous les péchés que vous avez faits. Voilà, et si on les compte, on dit, oh, puis Jésus, tout ça, tout ce mal-là, c'est Jésus qui l'a subi sur lui, sur ses épaules, et il a été châtié pour ça, il a été puni pour tout ce que nous l'avons fait, et pas juste pour nous, vous voyez combien, une quinzaine, là, vingtaine, mais pour les 7 milliards de personnes qui sont vivantes aujourd'hui, mais imaginez-vous tous les millions et les milliards de personnes qui ont vécu avant nous, et tout ça accumulé, tout sur le dos de Jésus, et Dieu en fin de compte qui tourne sa face, détourne sa face de Jésus, et Jésus qui ressent justement la solitude du moment où que il est devenu péché pour nous, et la colère de Dieu à notre égard est tombée sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Quand Jésus voit cette heure-là, il dit, wow, qu'est-ce que... Délivre-moi de cette heure. Non, c'est pour ça que je suis venu. C'est Père, glorifie ton nom. Autrement dit, Père, je sais que l'action que je vais faire de donner ma vie, ça va glorifier ton nom. Et Jésus non seulement savait que c'était sa propre gloire, c'est l'heure que le Fils de l'homme soit glorifié par un si grand sacrifice d'amour. Mais il dit aussi, Père, glorifie ton nom. Le souhait de Jésus, c'était de glorifier son Père parce qu'il savait que son Père était bon, qu'il était aimant, qu'il était un bon Père, fidèle. Il n'avait aucun doute que Dieu, le Père, l'envoyait à la croix, pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais bien au contraire, parce qu'il l'aimait tellement. Il n'avait aucun doute des motifs de son Père. D'où le désir profond, Père, glorifie ton nom. Et le Père répond. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et si vous étiez là, si nous étions là, et que de nos propres oreilles, on aurait pu entendre une voix du ciel qui répond à ce qu'il vient de dire, peut-être vous pensez, bah là, je suis convaincu, je vais me convertir. Ben, savez-vous, moi je me rappelle quand j'étais petit, j'avais mes amis qui je témoignais, et puis qui me disaient, si je pouvais voir les miracles que je voyais dans la Bible, je me convertirais bien. Mais pourquoi? Tu ne peux pas faire de miracles aujourd'hui. pas exactement à ce moment-là, dans ce que j'avais appris à ce moment-là, parce que je n'ai plus bien leur répondre, mais je sais au moins maintenant que Dieu a choisi de ne pas toujours donner le miracle. Il avait donné assez de miracles pour authentifier sa parole et pour authentifier Jésus. Mais une fois que l'authentification a été faite, ce n'est pas la question de assez de miracles ou pas. Parce qu'ici, nous voyons, verset 29, on va le lire, la foule qui était là et qui avait entendu, disait que c'était un tonnerre. Oh, ça ne peut pas que ce soit une voix du ciel qui ait dit ce qu'on a pensé entendre. On a pensé entendre, je l'ai glorifié, je l'ai glorifié. Mais ça ne se peut pas. Ça doit être du tonnerre. D'autres, non, ce n'était pas un tonnerre. C'était clairement une voix. Ça devait être un ange. Mais d'une manière ou d'une autre, on se faufile de la vérité. Les gens, ils ont l'évidence devant eux, mais on ne veut pas se fier à cette évidence-là. La mort sacrificielle et volontaire de Jésus-Christ pour donner vie. Ça, c'est son heure de gloire. Vous remarquez que la malhonnêteté s'est joint à la méchanceté de vouloir enlever la vie. En retour, la vérité, l'honnêteté, la lumière, elle est démarquée par un amour qui cherche à donner vie, pas l'enlever. Ce contraste est grand. Alors la foule ici, non, on a dû... Pas que le Père parle du Père, il glorifie ton nom, puis là on entend une voix, je l'ai glorifié, je le glorifie encore. Non, ça ne se peut pas que ce soit Dieu le Père qui répond. Ça serait trop simple, trop évident. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Hein? Le Père, il ne l'a pas dit pour que je puisse l'entendre, parce que moi j'ai besoin de l'entendre. Ce n'est pas pour moi, moi je le sais. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il a indiqué de quelle mort il devait mourir. Jésus savait très bien que quand il serait mort, il allait actuellement être élevé sur une croix à la vue de tout le monde. Et par cette illustration aussi, il a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui. Jésus, par le fait qu'il est mort, c'était aussi une offre individuelle. Et c'est pour ça qu'il veut que tout le monde en entende parler. Et c'était comme ça que Dieu, il lance la main à tout le monde. Par le fait que Jésus-Christ est mort publiquement, à la vue de tout le monde, c'était pour illustrer le fait que Dieu voulait que tout le monde en entende parler et que tout le monde individuellement pouvait l'accepter. Il attirerait tous les hommes à lui-même. Et là, verset 34, comme on a dit, la foule montre que le hosanna, c'était un émotionnalisme, mais rien de trop profond. Ah, il dit, mais... Voilà, attends une seconde. Ils avaient compris, hein. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Ils avaient compris les implications. Mais le Fils de l'homme vit éternellement. Oui, oui. Oui, oui, il vit éternellement. Oui, oui, la crucifixion ne va pas changer qu'il vit éternellement parce qu'il va ressusciter. C'était aussi prédit. Non seulement Ésaïe 53 prédit la crucifixion, que personne de son vivant ne va voir venir. Ah, ils n'ont pas vu venir non plus donc la résurrection. S'ils auraient vu venir la résurrection, bah, ils auraient compris qu'il doit mourir avant de pouvoir ressusciter. Donc ni la crucifixion, ni la résurrection, personne ne l'a vu venir. Même si c'était prédit clairement, explicitement, noir sur blanc, 600 ans avant. 700 ans avant. Par Ésaïe. Et ils sont incrédules. L'incrédulité. L'incrédulité de la foule. Et les pharisiens exposés. Dieu va manifester leur incrédulité. On voit le scepticisme de la foule. Jésus qui dit « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. » Il l'avait déjà dit, Jean 8, Jean 10, Jean... Je suis la lumière du monde. Jean 8 et 9, pardon. Je suis la lumière du monde. La lumière est encore pour vous un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Là, ils reçoivent de la lumière, potentiellement dans un sens. La lumière est là, elle est disponible. Ils peuvent l'accepter et marcher éternellement à la lumière. Mais là, c'est comme si... Il image la chose au sens que là, la lumière est là, elle est disponible, elle est accessible, mais elle ne sera pas toujours. Pendant que la lumière est là, croyez en la lumière. La lumière est accessible pour un temps. Ne prenez pas pour acquis, si vous avez déjà compris assez que vous êtes perdu, que vous avez besoin d'être sauvé, ne prenez pas pour acquis que, oh, ok, maintenant j'ai compris ça, quand je serai prêt, je le ferai. Parce que c'est bon de vous dire... Dieu avertit que la possibilité de se convertir n'est pas à jamais, n'est pas indéfinie, comment, n'importe quand. Vous connaissez bien le verset, cherchez l'Éternel pendant qu'il en est encore. Et Jésus dit ici, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Jésus sait que cette foule-là, elle va rester dans son incrédulité. Donc il y a un refus de croire, parce qu'il dit au verset 37, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Alors c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est les gens qui me disent « Ah, si je l'aimais, on pourrait voir un miracle en se convertissant. » Ça, c'est des défaites. Parce que la Bible, de toute façon, nous dit que la Bible, elle est plus convaincante que même le plus grand des miracles. Si même quelqu'un des morts reviendrait pour nous parler, on la croirait pas, on les croirait pas, si on n'a pas pris la Bible. La Bible est même plus convaincante que n'importe quel mort qui pourrait revenir des morts pour nous dire qu'est-ce qui est quoi. On se trouvera toujours une excuse. Alors, la Bible, si on la refuse de la croire, c'est qu'on a un cœur endurci à la vérité et la malhonnêteté de fond et la méchanceté qui l'accompagne pour, en fin de compte, ne pas vouloir suivre Jésus, mais vraiment l'éliminer pour pouvoir suivre à sa tête. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Et voilà. Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe 53, le premier verset d'Ésaïe 53. Dieu avait prédit que personne ne verrait venir, même si c'était écrit 700 ans d'avance, explicitement, noir sur blanc, en détail. Personne ne le verrait venir. Même les disciples de Jésus qui avaient été dit spécifiquement, je m'en vais sur Jérusalem, je vais être rejeté, je vais être livré à eux et je vais être crucifié, je vais être ressuscité. Les disciples, ils entendaient les paroles, mais ça ne rentrait pas dans la tête. Ils ne comprenaient pas. Alors, combien moins la foule ici croyait à ces choses-là. Les disciples, ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'il allait être le sauveur. Mais ils croyaient fermement qu'il était le sauveur, le Messie, le Fils de Dieu, qui avait les paroles de la vie éternelle. Et là, ensuite, ils ont compris. Ah, ok. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a été? On a manqué tout ça. Là, on comprend comment notre sauveur, il devait mourir d'abord, ensuite ressusciter. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça, en fin de compte, que nos péchés sont pardonnés. Donc, ils croyaient sans comprendre. Maintenant, aujourd'hui, maintenant que c'est expliqué, maintenant, on doit croire avec connaissance de cause que Jésus est mort pour nos péchés, puis qu'il est ressuscité. Puis c'est la seule manière pour laquelle... c'est la seule manière d'avoir nos péchés pardonnés par le sang de Jésus. Verset 40. Il a aveuglé parce qu'il y dit encore. Oh non, verset 39. Aussi ne pouvait-il croire. Wow. Ouh. Là, on a le refus de croire, mais ensuite, maintenant, il ne pouvait croire. Wow. Là, on parle de.
L'impossibilité.
L'impossibilité de croire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pasteur Raymond, vous nous avez souvent dit là qu'on n'est pas des robots, puis que quand Dieu nous invite et nous commande de se repentir et croire, il nous tient responsable de la chose. Comment est-ce qu'ici tu dis ici que la Bible nous dit ici là? Ben, vous le voyez vous-même, c'est pas moi qui l'invente. Aussi ne pouvait-il croire, c'est pas moi qui l'invente. Alors comment comprendre les deux? Il y a un endurcissement ici de leur cœur, parce que c'est cité. Aussi ne pouvait-il croire, parce qu'ils aient dit encore, il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez la fin de Acte, c'est dit aussi, c'est cité aussi dans la fin d'Acte. Acte 28. Acte 28, verset 25, 27, là. Là, les Juifs qui venaient visiter Paul en prison, pas en prison, il était en garde à sa propre maison, mais il était pas libre de circuler comme il voulait, mais comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, c'est là on parle de Acte 28, verset 25, page 854. Isaïe dit, c'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, ce n'est pas la parole d'Isaïe, c'est la parole de Dieu, le Saint-Esprit, a dit, va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voyez-vous, il y a un élément ici au verset 27 qui complète ici Jean 12, c'est qu'il y a les deux impliqués. Jean 12, c'est Dieu qui endurcit leur cœur, c'est Dieu qui les aveugle. Dans Acte 8, là, c'est le cœur est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Mais comment est-ce qu'on a les deux? Ben, ça fait ressortir justement la nature de cet endurcissement. C'est un endurcissement de confirmation. C'est un jugement de confirmation. C'est de laisser les gens à ce qu'ils veulent eux-mêmes. Ils veulent ne pas croire, Dieu les confirme là-dedans. Et là, ils ne peuvent plus croire. Dieu avertit beaucoup par rapport au jugement de confirmation. Dieu confirme les gens dans la... Il endurcit leur cœur, c'est-à-dire il le rend plus dur, il est déjà dur au départ. Endurcir quelque chose, c'est de rendre un cœur plus dur que ce qu'il est au départ. Mais il est déjà dur. D'où, justement... La lumière est accessible pour un temps. Dieu, lui, est le seul qu'il connaît, le temps où ce qu'il offre, et que les gens sont là, et qu'ensuite ils refusent, puis Dieu les confirme dans leur endurcissement, et met l'impossibilité de croire. Moi, je ne connais pas tout ce temps-là, où toute cette démarcation, mais j'en vois les principes. Et je sais que Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors Dieu dit, si l'endurcissement de leur cœur, c'est non seulement eux-mêmes qui se l'endurcissent, et ensuite le jugement de confirmation, Dieu endurcit leur cœur, Dieu les rend aveugles et Dieu les rend dit, c'est impossible que maintenant vous croyez. Si ça vous trouble, ne pensez pas, si ça me trouble, c'est peut-être déjà trop tard. Parce que Dieu m'appelle à vous dire, dans 2 Corinthiens 5, dans Hébreux, tant qu'on peut dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors si quelqu'un peut dire aujourd'hui, je peux encore dire avec l'autorité de la Bible, répondez à son appel de vous repentir et croire. Repentez-vous déjà de votre incrédulité. Et si vous craignez que dans votre cœur, ça soit déjà trop tard parce que vous vous êtes endurci déjà dans le passé, le fait que même vous craignez, Dieu vous dit, ne pense pas qu'il est trop tard, repentez-vous et crois. Viens humblement à ses pieds en disant, Dieu, aie pitié de moi, je sais que même je mériterai d'être endurci. Si même il y a possibilité, sauve-moi. Mais justement, la nature de la foi, c'est que Dieu est dans le business de quoi? De faire ce qui est impossible pour les hommes. Aux hommes, c'est pas possible. Comment? Qui donc peut être sauvé? Les disciples ont demandé à Jésus quand Jésus a dit, qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples ont dit, qui peut donc être sauvé? Et puis Jésus a dit carrément, ce qui est impossible aux hommes. Possible. Dieu peut faire l'impossible. Donc ce matin, si vous entendez ces paroles, vous commencez à être troublé dans votre cœur en disant, est-ce que c'est impossible pour moi? Est-ce qu'il est trop tard pour moi? Mais si vous vous demandez s'il est trop tard pour vous, c'est qu'il n'est pas trop tard. Dieu vous appelle encore à vous repentir et croire. Et de venir à lui en plaidant, Seigneur Dieu, je suis aveugle. Je vois rien. J'ai besoin que tu m'ouvres les yeux. Fais l'impossible à mon égard. Parce que mon cœur naturel n'est pas mieux que celle-là, deux autres là, qui ont vu tant de miracles, puis non. Ils ont endurci leur cœur, de peur qu'en voyant, ils se convertissent. Et ça part de la malhonnêteté de fond. Les gens qui ne veulent pas connaître plus parce qu'ils ont peur que là, ils se laissent convaincre. Et Dieu les confirme maintenant. La malhonnêteté de fond, Dieu le confronte ici. Verset 42 même. On va un peu trop vite là. L'endurcissement, l'impossibilité de croire, l'endurcissement de leur cœur. En même temps, celle de eux-mêmes et en même temps celle de Dieu. Dieu qui les confirme là-dedans et qui le rend impossible. La foi superficielle des pharisiens au verset 42, mais cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Au sens, pas salut, parce qu'ils ne sont pas convertis, mais ils savaient au fond, ils savaient que Jésus était le Fils de Dieu, ils savaient qu'il était le Fils de l'homme, ils savaient qu'il était vraiment celui qui avait fait des miracles, tout ça, ils savaient. Mais, attends une seconde là. Non. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus a dit clairement, celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Parce que si vous avez honte devant moi, devant les hommes, j'aurai honte devant vous aussi, devant le Père de vous. On ne peut pas croire en Jésus secrètement, à jamais. Nicodème a fini par révéler sa foi en Jésus quand il a osé aller avec Joseph d'Arimathée pour chercher le corps de Jésus. La foi parle, comme dit la Bible, dans l'Ancien Testament autant que dans le Nouveau. Mais ici, non. Il croit en Jésus, mais on aime mieux la gloire humaine. Le fond de l'amour de la gloire humaine. C'était la foi superficielle, parce qu'au fond de cette foi superficielle que certains pharisiens avaient, il y avait un amour de fond pour la gloire humaine. Vivre pour maintenant, être bien vu maintenant. Ça c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut toucher. La vie éternelle. Et moi je me fais dire ça parfois par les gens. Ta vie éternelle, c'est quoi ça? Alors regarde, c'est maintenant qu'il faut vivre ce que tu... Là tu sais que tu as ça, la vie pour. l'autre, comment peux-tu savoir si tu l'as ou pas? Ah, cette manière de raisonner qui est incrédule, est insensée. Elle ne prend pas Dieu au mot. Et versets 44 à 50, l'offre du salut, et qu'est-ce qui en résulte? Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans la lumière, dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Jésus est venu accomplir non pas sa volonté. Il n'est pas venu dire ce que lui voulait dire. Il est venu pour dire ce que Dieu lui a donné à dire. Il est venu faire ce que Dieu lui avait donné à faire. Jésus humblement accomplit le salut pour quiconque se confie en lui. Mais il dit, s'il y a un homme de salut, c'est aussi évident qu'il y aura un jugement pour ceux qui le rejettent. L'offre de salut est justement ça. C'est automatique. C'est une offre. Il faut l'accepter. Ne pas l'accepter, il y aura le jugement. Et les paroles que même Jésus a dites en offrant seront celles qui seront utilisées aussi pour juger ceux qui la rejettent. L'offre du salut est le jugement qui résulte de son rejet. Oh mon ami, si vous n'êtes pas encore venu à Jésus, il n'est pas trop tard. Venez à lui ce matin. Sachez que si vous continuez à le rejeter, que vous, jusqu'au point où c'est trop tard, et que vous fassiez face à Dieu au jour du jugement, les paroles que vous aurez entendues de son note Jésus vont être ramenées. Vous direz, Jésus va dire, j'ai payé pour toi, tu l'as entendu parler, et tu as rejeté. La malhonnêteté de fond et la méchanceté des pharisiens et de pair avec la foule qui vont crier 5 jours plus tard, crucifie-le! Ça finit par ressortir. La méchanceté de fond et la malhonnêteté de fond, ça finit par ressortir. À l'inverse, Jésus est venu pour donner sa vie, lui la lumière du monde, qui nous a dit la vérité. Elle n'est pas flatteur, mais elle n'est pas plus grand amour. Dieu nous aime malgré nos péchés. On est prêt à l'accepter, point final, pour tout ce que ça veut dire, c'est pas flatteur. Mais il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grande vérité. Mais il faut accepter de se repentir, d'avouer son incrédulité, d'avouer qu'on est complètement perdu, on est complètement aveugle, on est complètement, à moins que Dieu choisisse de nous sauver. Et on lui plaît, alors Seigneur Dieu, on l'invoque. Et on l'invoque par la foi, se fiant qu'il a promis, alors je peux le prendre au mot. Et puis celui qui a soif, qui vient prendre de l'eau gratuitement. Ah, Dieu, je viens. Et je te fais confiance alors, il n'est pas trop tard. Et que tu as tout accompli une fois par, déjà par Jésus, ton fils, sur la croix du calvaire, il est ressuscité. Ah, qui veut donc se convertir même ce matin? Parce qu'il y en a qui, ce matin même, dirait, ah, parce que vraiment, ouais, je sais que je suis perdu, je sais que j'ai besoin de venir à lui. Pour l'instant, je l'ai remis toujours plus tard, mais là, non, je ne vais pas le remettre plus tard. Il faut que je me convertisse, puis là, je choisis de me convertir. Est-ce qu'il y en a qui dirait ça ce matin? Dieu nous dit que ceux qui se convertissent, bah, qu'ils se fassent baptiser aussi, pour emmener notre foi en Jésus. Moi, je vous dis, si vous vous convertissez ce matin, vous me le dites, vous dites, Pasteur Raymond, j'accepte de mettre ma foi en Jésus ce matin. Et donc, je veux apprendre à propos du baptême aussi, parce que je veux obéir au Seigneur Jésus. Je veux professer à tout le monde que je l'accepte, que le sauveur du Seigneur. Acceptez-le si ce n'est pas encore fait. Seigneur Dieu, on te prie que tu puisses toucher le cœur de quiconque est encore perdu. Et pour ceux d'entre nous qui professons l'avoir accepté, oh Seigneur Dieu, que ce ne soit pas une profession vide, comme beaucoup de ces gens-là, mais que ce soit vraiment une vraie profession, qu'on démontre notre foi par l'obéissance, par le service, et de choisir nous-mêmes de mettre notre vie en terre pour le fruit qui va en résulter à ta suite, Seigneur Dieu. Donc, Seigneur, touche les cœurs selon le besoin de chacun. Tu connais, Seigneur, ceux qui t'appartiennent. Tu connais ce que tu conviens encore à venir à toi. Et Seigneur, on te prie, donc tu puisses toucher les cœurs dans ta grâce, dans ta patience, Seigneur Dieu, par ta parole ce matin, au nom de Jésus.